Alors, nous continuons cette étude sur les raisons de croire. Bien sûr, on a eu déjà pas mal d'exemples de pourquoi croire que la Bible est vraie à travers les prophéties qu'elle a annoncées et qui se sont réalisées. La dernière fois, hein, nous étions en train de voir les prophéties de Jésus-Christ, que lui-même a prophétisé concernant sa mort, concernant sa résurrection. Et il y a une autre prophétie que Jésus a faite, c'est celle concernant le temple. Et c'est une prophétie qui est quand même assez remarquable. Ce soir, si on a le temps, bien sûr, on verra également l'impact de cette prophétie. Mais la prophétie de Jésus-Christ sur la destruction du temple, et on parle du temple d'Hérode. On va regarder ça un peu plus en détail dans quelques instants, mais on retrouve cela dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, les versets 1 et 2, Matthieu 24, 1 et 2. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors le temple dont il est question ici, comme on va le voir dans quelques instants, c'est bien sûr pas le temple que Salomon avait construit, parce que celui-là, hein, il avait été détruit par les Babyloniens. Rappelez-vous, hein, en 538 avant Jésus-Christ, il y a eu le retour, hein, une première vague de retour après cet exil à Babylone. Et donc le reste du peuple d'Israël fut autorisé à reconstruire le temple. C'est pas le même temple que celui que Salomon a construit. Hein, d'ailleurs, la Bible nous parle qu'ils étaient même un peu tristes parce que ça n'avait pas la même beauté, le même éclat, la même grandeur que le temple de Salomon. Ce temple donc avait, ce temple de Salomon, lui, avait été détruit en 586. Mais voilà. Ils sont autorisés à retourner pour reconstruire le temple. Et donc, c'est Zorobabel qui est chargé de cela, notamment. Et il a mis 2 ans, hein, à reconstruire les fondations du temple, déjà. Et la construction, hein, ensuite, a été retardée parce que, ben, autour, il y avait des gens qui étaient hostiles à ce que le peuple d'Israël revienne dans les terres d'Israël. Ils étaient hostiles donc à la reconstruction du temple, hostiles à la reconstruction de Jérusalem. Et donc, il y a, en raison de cette opposition, eh bien, cette construction du temple a été beaucoup retardée. Hein, il a fallu attendre 17 ans pour que les travaux reprennent et que finalement ce temple soit reconstruit. Et donc, les travaux, hein, n'ont repris que vers 420 avant Jésus-Christ et s'achèvent donc 4 ans plus tard en 500. Qu'est-ce que j'ai marqué moi? 416 avant Jésus-Christ, j'ai une faute de frappe. Et le temple que Jésus et ses disciples en fait sont en train de visiter, à ce moment-là, c'est un peu en rénovation, agrandissement. Hein, c'est ce temple, c'est le même temple que Zorobabel a fait reconstruire, mais Hérode va chercher à lui donner plus de grandeur. En 20 avant Jésus-Christ, Hérode Ier le Grand, il entreprend donc des travaux d'expansion, d'embellissement du temple. Et à l'époque de Jésus, donc, et même des apôtres, ce temple donc était en reconstruction. Et à cette époque, il faut reconnaître que ben, le temple à Jérusalem était l'une des structures hein, les plus impressionnantes à l'époque, hein, dans le monde, dans l'Empire romain. Ça faisait partie hein, de ces grandes constructions. Il était fait de blocs de pierre massifs qui étaient ornés avec des ornements en or. Et certaines des pierres, même du temple, mesuraient hein, jusqu'à 12 mètres sur 3 mètres. C'était des blocs énormes. Et les bâtiments donc, du temple, on y retrouvait du marbre blanc. Il y avait de grandes structures qui étaient donc recouvertes avec de l'or. Ça crée, avec bon, le soleil bien sûr, un spectacle qui était assez important, hein, qui se voyait d'assez loin. Et donc, Le temple que Hérode est en train de... Vous avez une comparaison à des temples entre le temple de Salomon, hein, celui ensuite reconstruit et agrandi par Hérode. C'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire pour l'époque, même en taille. Et donc ce temple, il était magnifique à tous égards. Et bien sûr, c'est normal pour les disciples qui passent par là d'être waouh, c'est quand même extraordinaire, hein. Ce temple qui est construit, c'est beau, c'est merveilleux. Et comme n'importe qui, même d'entre nous, quand on voit une grande construction bon, je pense à la reconstruction, par exemple, de la cathédrale de Notre-Dame, on est impressionné quand même de ce qu'ils ont pu reconstruire à l'identique, etc., lui redonner son éclat et sa présence dans la ville. Et là, les disciples, c'était un peu pareil. C'est waouh, c'est quand même spectaculaire ce temple. Et donc la réponse de Jésus, hein, sa déclaration, elle surprend ses auditeurs, hein, lorsqu'il dit, il n'en restera pas une pierre. Et donc Jésus ici, il prophétise non seulement la destruction du temple, mais aussi le fait qu'il n'y a pas une seule de ces pierres qui va rester debout de ce temple. Et donc cette prophétie va s'accomplir quelques années plus tard. Hein. L'histoire nous rapporte que déjà en 66 après Jésus-Christ, bon, la population juive, elle va se rebeller, hein, contre l'Empire romain, parce qu'il va y avoir des tensions dues, hein, à la religion entre les Grecs et les Juifs. Et bon, ça, c'est ce qui a notamment débuté ce qu'on appelle la guerre judéo-romaine, hein, qui va durer de 66 à 73, bon, la première, hein, des guerres. Elle est également appelée la Grande Révolte, hein, si vous aimez l'histoire. Elle est principalement relatée par l'historien juif Flavius Josèphe, mais c'est cette première guerre, hein, si vous connaissez un peu cette histoire-là, de cette période-là, c'est cette première guerre qui a pris fin avec le massacre de la forteresse à Masada, hein, où les derniers rebelles juifs, hein, se trouvaient. Mais bon, au cours de cette guerre, au cours de cette révolte, donc, on va voir cette prophétie se réaliser. Parce qu'en 70, après Jésus-Christ, Tite, qui à ce moment-là, il est encore général, il va prendre la ville de Jérusalem et il va prendre la décision de détruire le temple. Flavius Josèphe rapporte d'ailleurs que Tite, hein, va même prendre la décision de détruire ce temple peu de temps avant la Pâque, hein, pour vraiment marquer le coup et écraser donc les Juifs qui se rebellaient contre l'Empire romain. Et donc il va faire construire de grands échafaudages en bois tout autour des bâtiments du temple et il va empiler du bois et d'autres objets inflammables, et il va y mettre le feu. Et il est dit que la chaleur, hein, des incendies provoqués était si intense que les pierres ont fini par s'effondrer d'elles-mêmes. Et les décombres, ensuite, ont même été tamisés par certains pour essayer de récupérer leur fondu qui avait, hein, vous rappelez-vous, sur certaines des pierres et des colonnes, etc., il y en a qui cherchaient l'or qui était dedans. Mais toutes ces ruines restantes on finit par être jeté dans la vallée du Cédron. Alors aujourd'hui, hein, on a encore peut-être juste le mur de soutènement, hein, ce qui était la fondation, mais tout ce qui était vraiment du temple, les murs du temple, il n'en reste rien. Et d'ailleurs, bon, si vous avez entendu parler du mur des Lamentations, hein, ça fait partie de ce mur de soutènement, hein, du temple. Mais ce que je veux souligner, c'est surtout la portée de cette prophétie. Pourquoi? Ben, outre le fait que cette prophétie se soit réalisée, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que non seulement il fait la prophétie concernant la destruction du temple, mais le fait qu'il ne resterait pas pierre sur pierre de ce temple, et l'histoire confirme cela. Mais c'est surtout que jusqu'alors, jusqu'à ce moment-là de l'histoire, le temple à Jérusalem était le lieu où les croyants juifs apportaient leurs sacrifices, les sacrifices à Dieu, des sacrifices d'expiation, des offrandes également, mais surtout ces sacrifices d'expiation des péchés. Et alors quand on regarde ce que la Bible nous dit, quand on prend Le temps de regarder avec attention les paroles de Christ, ce qu'il dit de lui-même, ce que les apôtres ont dit de lui également, on comprend que Dieu le Fils, déjà, s'est incarné dans le but de volontairement offrir sa vie en sacrifice. Pour quelle raison? Pour l'expiation des péchés. Ça, c'est clair à travers tout le Nouveau Testament et même dans l'Ancien Testament, quand on a parlé des différentes prophéties, les prophéties qu'on retrouve dans Ésaïe, on comprend que le Messie devait souffrir et qu'il servirait donc de sacrifice. Mais ce sacrifice d'expiation que Jésus a apporté pour l'humanité, hein, il a par cela donné le moyen, hein, à tout être vivant, eh bien de placer sa foi en lui et de recevoir donc le pardon des péchés. Hein, Ésaïe 53, et on va prendre le temps de lire juste quelques versets, hein, de Ésaïe 53, parce que c'est fort intéressant. Déjà au verset premier, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ça m'a fait penser à ce que Paul notamment a écrit dans l'Épître aux Romains. Hein, au chapitre 10, versets 16 et 17, il dit: « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hein, Paul, il fait ce lien qui est... On peut pas enlever ce lien. Ce lien entre les paroles de Christ et que la foi vient de ce que Christ nous dit, de lui, mais aussi de nous-mêmes. Alors continuons un peu dans ce passage d'Ésaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et quand moi j'ai relu ces versets-là, ça m'a fait penser à un autre verset, celui qui se trouve dans Matthieu 23, verset 37. Et c'est le Seigneur qui parle en disant: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, n'a pas voulu. N'a pas voulu du plan de Dieu pour eux, n'a pas voulu le Messie qui est venu, qui est parmi eux, qui a vécu parmi eux, qui a été. Il a enseigné ce peuple, il a montré des prodiges et des miracles que aucun prophète n'avait accompli jusque-là. Il a montré par les Écritures et par ses actions qu'il était le Messie. Et pourtant, voilà. Ils n'ont fait de lui aucun cas et ils l'ont dédaigné. Verset 4 d'Ésaïe 53, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Rappelez-vous que lorsque nous avions parlé de la crucifixion, que la crucifixion était vue par les Juifs comme vraiment étant la forme de mort, d'exécution. La plus terrible, la plus horrible, mais vraiment quelque chose de maudit. C'était une malédiction que de mourir ainsi, hein. Maudit quiconque est pendu au bois. Verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Paul nous rappelle dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5 et 21, au sujet de Christ, qu'il est celui qui n'a pas connu le péché. Hein? Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, le système d'un sacrifice d'expiation, lorsqu'on apportait un animal en sacrifice d'expiation, eh bien voilà, c'est l'animal qui prenait sur lui notre péché, qui prenait sur lui la condamnation. Et ce que Christ montre à travers ses discours, ce que ses disciples et les apôtres ont enseigné à son sujet, ce que l'Ancien Testament enseigne aussi à son sujet, c'est que il est celui qui pouvait apporter donc ce sacrifice parfait d'expiation pour les péchés. Et il n'y a que par lui que nous pouvons donc devenir justice de Dieu, c'est-à-dire complètement pardonné de nos péchés. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Rappelez-vous des paroles de Jean-Baptiste en voyant Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Okay? Y a un lien indéniable entre cette prophétie d'Ésaïe 53 et ce que Jésus est venu accomplir sur terre en apportant sa vie comme sacrifice d'expiation. Il était semblable donc à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Relisez les évangiles. Hein, la manière dont le Seigneur Jésus s'est conduit lorsqu'il a été arrêté. Lorsqu'il a été faussement accusé aussi hein, par ses adversaires. Parce qu'ils sont allés chercher des gens qu'ils ont soudoyés pour dire des mensonges au sujet de Jésus, hein, pour le faire condamner. Et il a gardé le silence. Il a gardé le silence. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. On se rappelle aussi de cette nuit de prière à Gethsémané, où vraiment c'est cette angoisse pesante de savoir ce qui l'attendait hein, était quelque chose qui était terrible pour lui, comme souffrance mentale hein, qu'il avait en attendant ce moment terrible de la crucifixion. Et on a mis donc son sépulcre parmi les méchants. Matthieu 27 hein, nous rappelle qu'il a été crucifié entre deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Dans le chapitre suivant, verset 57, on voit donc Joseph d'Arimathée qui va offrir donc un tombeau pour le corps du Christ. Et on savait que Joseph d'Arimathée était quelqu'un qui était fortuné, qui était aisé. Donc voilà, mis à mort parmi les méchants et enterré avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et ça me rappelle encore les paroles du Seigneur. Personne ne m'ôte la vie. C'est moi qui la donne volontairement. Mais de ce que nous disent encore les évangiles, Matthieu 28, hein, comme quoi il n'est point ici, il est ressuscité. Donc, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Qu'est-ce que ce verset d'Ésaïe 53, verset 10 nous dit? Ben voilà, le Messie va offrir volontairement sa vie. Pour quelle raison? Pour le péché, hein, en sacrifice. Et que, après avoir connu la mort, il verra une postérité et prolongera ses jours. C'est-à-dire que la mort, finalement, n'aura pas eu cette emprise sur lui. Continuons dans Ésaïe 53. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Et là aussi, hein, les Écritures nous rappellent que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, hein, qui intercède pour nous, hein, qui défend ses brebis. Alors donc, ce passage de l'Ancien Testament apporte donc de nombreux détails sur le Messie, notamment la raison de sa venue, hein, d'offrir son corps comme sacrifice d'expiation pour l'humanité, tel un agneau qu'on mène à la boucherie. Le fait est que Christ, étant Dieu et homme à la fois, eh bien, il est le seul à pouvoir apporter un tel sacrifice, le seul à pouvoir, un, accomplir toute la loi, mais donc le seul à pouvoir présenter ce sacrifice parfait qui puisse expier les péchés pour de bon. À deux reprises, hein, on en a parlé déjà, mais à deux reprises, Jésus fut appelé donc l'agneau de Dieu. Et lorsque Jean-Baptiste donc appela Jésus l'agneau de Dieu, hein, que ce soit dans Jean chapitre 1er verset 29 et plus tard au verset 36, il indiquait déjà par cela que Jésus était celui dont Ésaïe parlait, hein, celui qui apporterait ce sacrifice parfait et ultime pour le péché. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le système sacrificiel que Dieu a établi dans l'Ancien Testament a servi à préparer le chemin pour la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le sacrifice parfait, hein, que Dieu offrirait en expiation pour les péchés de son peuple. Hein, relisez Romains 8 et Hébreux 10. Bon, l'Épître aux Hébreux, c'est un hommage à Christ, un hommage à qui il est, à ce qu'il a accompli, un hommage à sa perfection, un hommage au fait que le salut qu'il nous offre, c'est un salut parfait qui ne dépend pas de nous, bien heureusement, mais qui dépend de sa grâce et de son œuvre sur la croix et sa résurrection. Les sacrifices d'agneaux jouaient un rôle très important dans la vie spirituelle, hein, du peuple juif. Et lorsque donc Jean-Baptiste fait référence à Jésus comme l'agneau de Dieu, les Juifs qui ont entendu cela, peut-être certains ont immédiatement fait le lien avec ce que Ésaïe disait, d'autres ont certainement compris, ben, il est l'agneau de Dieu, bon, nous, qu'est-ce qu'on fait des agneaux? Ils comprenaient qu'il y avait un sacrifice, surtout, voilà. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah ben oui, les agneaux, on les utilisait ça aussi pour l'expiation des péchés. Hein, on offrait ça en sacrifice au temple. Et notamment parce que la Pâque approchait également. Je pense que beaucoup d'entre eux ont pensé, mais qu'est-ce qu'il est vraiment en train de dire là, Jean-Baptiste? La Pâque était l'une des principales fêtes juives et une célébration en souvenir de la délivrance des Israélites de l'esclavage en Égypte. Et donc l'immolation de l'agneau à la Pâque, l'application du sang hein, sur les montants des portes des maisons, qu'on relit cela dans Exode chapitre 12, on voit là une belle image de l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix. Hein, c'est le fait que le sang de l'agneau devait être appliqué hein, sur les montants de portes qui étaient en bois. Le fait que, voilà, c'est ce qui allait préserver hein, ceux qui étaient à l'intérieur de ces maisons qui avaient suivi hein, l'ordre de Dieu par Moïse. On a une image de ce que Christ allait accomplir, qu'il fallait qu'il y ait le sang qui coule, il fallait que l'agneau soit sacrifié pour le salut, pour que les gens soient saufs. Et le principe, donc, c'est que le sang de l'agneau donc protège de la juste condamnation divine. Ceux pour qui Christ est mort sont donc couverts par ce sacrifice. Et il nous protège de la condamnation du péché, il nous protège de la mort spirituelle qui est la juste condamnation hein, qui est pour le pécheur. Un autre sacrifice important qui impliquait les agneaux était le sacrifice quotidien qui était fait au temple à Jérusalem. Il faut comprendre que chaque matin, chaque soir, un agneau était sacrifié dans le temple pour les péchés du temple, du peuple. Et ces sacrifices quotidiens, comme tous les autres qui étaient apportés, avaient vraiment l'objectif d'orienter les gens vers le sacrifice du Messie. Un sacrifice promis, un sacrifice parfait. Et donc, en fait, le moment de la mort de Jésus, hein, sur la croix, correspond également au moment où le sacrifice devait être apporté au niveau du temple. Les Juifs, à l'époque, connaissaient très bien les prophètes hein, de l'Ancien Testament, Jérémie, Ésaïe, hein, qui avaient prédit la venue de Christ, hein, de celui qui serait amené comme un agneau mené à la boucherie, hein, dont les souffrances et le sacrifice assuraient la rédemption d'Israël. Et cette personne n'est autre que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Alors même si aujourd'hui, surtout pour nous avec notre culture moderne et occidentale, hein, l'idée d'un système sacrificiel peut sembler étrange et barbare pour certains, je crois que le concept de paiement ou de restitution est toujours un concept que nous pouvons facilement comprendre. Hein, nous savons que le salaire du péché, c'est la mort, selon ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 6 et verset 23, et que notre péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Nous savons également que la Bible enseigne que nous sommes tous pécheurs et qu'aucun d'entre nous n'est juste devant Dieu. Et à cause de notre péché, nous sommes donc séparés de Dieu et nous sommes coupables devant lui. Il y a une restitution à faire, mais je n'ai pas les moyens de restituer quoi que ce soit à Dieu. Je devrais offrir quelque chose à Dieu pour ce que je lui ai fait, mais je n'ai rien qui puisse couvrir tous mes péchés. Et le seul espoir donc que nous avons, c'est celui que Dieu nous a donné à travers Jésus-Christ. Hein, il est le seul qui donne le moyen pour nous d'être réconciliés avec Dieu. Hein, c'est par Jésus-Christ qui a offert sa vie, hein, sur la croix et qui est ressuscité des morts. Et ainsi, l'expiation des péchés est devenue possible. Donc la mort, la résurrection de Jésus ont rendu la nécessité d'offrir des sacrifices au temple obsolète. Une fois que Christ a donné sa vie sur la croix pour l'expiation des péchés de l'humanité, et c'est quelque chose qui est valable pour ceux qui donc placent leur foi en Jésus-Christ, pour cela, ceux qui n'en veulent pas, ils n'en prennent pas. Mais Jésus, il a apporté ce sacrifice pour tout le monde. C'est disponible à tous ceux qui le veulent. Mais ça nous indique que, par conséquent, que ce temple qui avait été fait de main d'homme, qui avait été fait de pierre, a perdu cette utilité. C'est-à-dire, puisque Christ est le sacrifice parfait, hein, c'est ce que Hébreux nous rappelle, puisque Christ est le sacrifice parfait, il n'y a plus besoin d'apporter quoi que ce soit comme sacrifice à Dieu pour l'expiation de nos péchés. Et de ce fait, l'utilité du temple dans cet objectif-là a disparu. Et donc, c'est par sa mort sur la croix, en tant que sacrifice parfait de Dieu pour le péché, sa résurrection 3 jours plus tard, que nous pouvons maintenant avoir cette vie éternelle. Hein, si nous croyons en lui, nous avons l'expiation des péchés. Et le fait que Dieu lui-même, donc, ait fourni cette offrande pour nos péchés, ça fait partie, hein, de ce qu'est l'évangile, hein. C'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est quelque chose qui est glorieux et qui est clairement déclaré dans les Écritures. Relisons ce passage de 1 Pierre chapitre 1 et versets 18 à 21, qui nous rappelle que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps, à cause de vous, par lui vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Christ a accompli cela. Et je voulais juste terminer avec cette pensée-là. C'est que ce temple à Jérusalem, il a été détruit. Il ne reste plus pierre sur pierre. Il n'y a plus de lieu pour apporter ces sacrifices d'expiation des péchés. Parce qu'il n'y en a plus besoin. Christ a accompli cela une fois pour toutes. Mais il existe un nouveau temple. Et c'est un temple qui n'est pas fait de main d'homme, qui n'est pas fait de pierre, ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est un temple qui est spirituel. Et ce temple, bien, il y a, on va dire, deux aspects à ce temple, et ils sont liés. On pourrait peut-être parler de deux temples si vous voulez, mais Éphésiens chapitre 2 déjà nous rappelle au verset 20 et 22 que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, la pierre angulaire de quoi? Tout ce passage-là parle de l'Église. OK? Pas juste l'Église ici à Amiens, mais l'Église. C'est-à-dire toute cette assemblée qui réunit les croyants, hein, qui ont placé leur foi en Dieu, en Jésus-Christ, cette assemblée qui existe à travers les siècles, et que Jésus est en train de se constituer. Eh bien, Christ est la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être quoi? Un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc l'Église, eh bien, est maintenant ce temple. Parce que le temple, c'était aussi le lieu où, bah, on glorifiait Dieu, n'est-ce pas? C'était là aussi où on apportait ses sacrifices pour l'honorer, pour le louer. Mais maintenant, Dieu, en Jésus-Christ, il a établi l'Église Et cette église, donc, c'est quelque chose de spirituel qui nous implique, nous qui sommes croyants, qui sommes nés de nouveau, parce que bah, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Et comme Paul le rappelle également dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc nous-mêmes, en tant que croyants, nous sommes un temple de Dieu. Et ensemble, en tant que croyants, aujourd'hui, en France, à travers le monde, mais aussi à travers les siècles, eh bien, nous constituons cette église que Christ est en train de se constituer, se préparer, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, une église glorieuse. Et ça, pour moi, ça prend tout son sens. Quand on comprend que Jésus dise, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple. Pourquoi? Vous n'en aurez plus besoin. Parce que vous n'aurez plus besoin d'apporter des sacrifices d'expiation, parce que je suis l'agneau de Dieu. Vous n'aurez plus besoin d'aller à ce temple pour offrir des sacrifices, pour m'honorer, pour glorifier Dieu. Non, parce que vous allez devenir mon temple. Je vais être cette pierre angulaire sur laquelle cette église, ce temple va être édifié pour la gloire de Dieu. Et chacun d'entre nous, croyant, eh bien, nous sommes un temple pour le Saint-Esprit. Sincèrement, c'est mon opinion que il faut vraiment de la mauvaise volonté pour ne pas voir Jésus-Christ à travers toutes ces prophéties de l'Ancien Testament. Ésaïe 42, verset 18, justement, dit: Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Je crois que malheureusement, beaucoup de personnes préfèrent être comme ces trois singes-là. Je ne veux rien entendre, hein, je ne veux rien voir, je ne veux rien dire, bon. Mais malheureusement, c'est cela. C'est des gens qui sont aveuglés, qui refusent de voir l'évidence, les évidences que les Écritures nous rapportent, les évidences que l'archéologie, que l'histoire nous apporte. Il y aura toujours des gens pour contredire. Il y aura toujours des gens qui vont donner toutes sortes de théories pour dire « Ah non, ça s'est pas passé comme ça. » Mais comme je le dis toujours, pour moi, il me semble que en justice, c'est à l'accusateur de prouver ses dires. C'est à l'accusateur de montrer pourquoi la Bible ne serait pas ce qu'elle est ou ça ne serait pas passé comme ça. Normalement, c'est pas à nous de défendre quoi que ce soit. Mais nous le faisons, pourquoi? Ben parce que la Bible, déjà, un, nous demande de le faire, pas dans le but de nous dire que nous sommes des grandes personnes qui connaissent bien la Bible, etc. Non, parce que il y a des personnes qui ne voient pas. Et des gens qui n'entendent pas. Et parfois, ils ont besoin d'avoir les yeux qui leur sont ouverts. Et nous avons cette responsabilité en tant que chrétiens, bah, comme Pierre nous dit, hein, que si quelqu'un demande raison de notre foi, que nous puissions répondre avec douceur. Hein, donner une réponse raisonnable de pourquoi nous croyons. Et pour moi, bon, c'est cette étude qui est assez basique. C'est l'idée que je voulais, c'était que ça puisse montrer à ceux qui peut-être doutent encore les raisons pour lesquelles vous pouvez croire au message de la Bible. Pour ceux qui connaissent le Seigneur, d'être fortifiés hein, dans leur foi, mais aussi d'avoir ces atouts dans leur témoignage personnel lorsqu'ils veulent parler du Seigneur aux autres et qu'ils ont des questions, d'avoir ces éléments de réponse-là également.